Pour cette 8e édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides sur Île-d'Yeu, le collectif agricole Lieu Demain, la LPO, les croqueurs de pommes, la mairie de Île-d'Yeu, des bénévoles, des citoyens s'associent afin de promouvoir des méthodes alternatives aux pesticides entre le 20 et le 30 mars prochain. Christy Cohen, bonjour.
Bonjour.
Tu es secrétaire du collectif agricole.
Oui, voilà, encore pour quelques temps.
Émilie Coulombe, bonjour.
Bonjour.
Tu es citoyenne.
Oui, et bénévole.
Et bénévole. Pourquoi c'est important pour toi de limiter les pesticides? Et comment fais-tu pour limiter les pesticides?
Alors, c'est important pour moi d'interdire les pesticides.
D'interdire les pesticides?
Voilà. Pour l'avenir, en fait. Pour notre planète, pour l'eau, notre terre, les abeilles. La floraison, nos légumes, enfin tout.
Les abeilles, on va en parler avec Renan Pointeau, bonjour.
Bonjour.
Tu es apiculteur sur Île-d'Yeu.
Oui, depuis 2016.
Depuis 2016, et pour toi, les pesticides sont complètement interdits sur ton exploitation?
Oui, déjà sur mon exploitation. Après, le problème, c'est que les abeilles ne s'arrêtent pas à mon exploitation.
Explique-nous,
Renan. Je suis directement impacté, on va dire, par les effets des pesticides. Et puis on voit l'état vivant des impacts, donc c'est là où on se rend compte plus peut-être dans la nourriture où finalement on assimile et derrière on développe des maladies, mais beaucoup plus tard.
Impacté dans quel domaine pour toi, Renan?
Mortalité, tout simplement.
Mortalité des abeilles?
Oui, tout à fait. Les abeilles, en fait, ça perturbe leur système nerveux, donc d'orientation. Donc elles sortent de la ruche, mais elles ne reviennent pas et la colonie se dépeuple jusqu'à mourir.
À cause de ces pesticides, tu as beaucoup de pertes d'abeilles?
Alors, comptabiliser comme ça, non, mais ça développe en fait une faiblesse dans la colonie qui va devenir sujette à des maladies. Et ça, moi et encore, je travaille avec des abeilles domestiques, donc des abeilles que j'aide, que je traite. On ne parle pas de tous les insectes et tous les pollinisateurs qui, eux, n'ont pas d'aide de l'homme, donc qui meurent et personne ne s'en rend compte. Ouais.
Christy Cohen, c'est la 14e semaine des alternatives aux pesticides au niveau national, la 8e édition pour l'Île-d'Yeu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience de la population illaise de ce problème de pesticides?
Je pense
et de tout ce qu'il entraîne.
Je pense qu'il y a une prise de conscience profonde au niveau mondial, au niveau national et au niveau de l'Île-d'Yeu aussi. Beaucoup d'émissions de télé, beaucoup d'actions, effectivement, mettent en valeur les problèmes et les enjeux profonds de l'usage des pesticides, aussi bien dans l'agriculture que dans nos jardins. Et que tout ça se termine aussi dans nos assiettes, il ne faut pas l'oublier. Il y a les abeilles, la mortalité des abeilles. Un jour, on parlera aussi de la mortalité des hommes et des maladies chroniques que ça entraîne, malheureusement. Donc, en fait, c'est un enjeu très important. C'est un enjeu pour l'avenir, comme disait Émilie, parce qu'effectivement, il y a le problème de la biodiversité. Et cette année, c'est le thème majeur.
Mais tu as l'impression tout de même qu'il y a une prise de conscience de la population?
Je ne peux pas la mesurer, j'espère. j'espère qu'on contribue à donner des solutions pour des alternatives aux pesticides, aussi bien dans les jardins que dans les assiettes.
Renan, comment fais-tu pour limiter ces pesticides ou pas en utiliser pour tes abeilles?
Alors, moi, je ne peux pas agir sur le choix des gens. Après, j'essaye de montrer l'exemple, en fait. C'est déjà la première chose à faire, de parler avec les voisins, de leur expliquer. Ça peut aller très vite. On a des cas où on se retrouve du jour au lendemain avec un tas d'abeilles mortes au fond de sa ruche. Et c'est vrai que visuellement, c'est beaucoup plus parlant, on va dire, sur l'impact du pesticide. Après, comment je peux impacter? Continuer à expliquer aux gens qu'il faut planter des arbres, qu'il faut, enfin des arbres, si possible mellifères, avec des fleurs. Il faut avoir un minimum d'impact sur son potager, c'est-à-dire en utilisant son potager de façon naturelle, quoi, tout simplement. Après, j'ai pas de solution miracle. Hein. C'est les gens qui décident s'ils utilisent ou pas des pesticides.
Émilie, t'as l'impression tout de même que les gens prennent conscience des impacts des pesticides dans ton entourage proche?
Moi, ce que je me dis, c'est que tout le monde est en chemin. À voir où on en est sur le chemin. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde soit sur le chemin. Comme dit Renan, c'est vrai que c'est difficile de se dire que chacun, on peut faire quelque chose. C'est vrai, on le voit pas tout de suite, voilà. Mais voilà, se mettre en chemin, s'informer, et d'où effectivement cette manifestation au casino et au verger patrimonial.
On va en parler dans un coin instant. Quelle est la thématique de cette année 2019 au niveau national, Christy ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau national, le thème majeur, c'est « Sauvons la biodiversité ». Il faut savoir qu'effectivement, hein, chaque année, on compte jusqu'à 30 000 espèces qui disparaissent. L'usage des pesticides, bien sûr, est pour partie responsable dans l'agriculture, mais aussi dans toute l'industrie agroalimentaire, dans le transport, etc. Mais même dans les transports et dans la fabrication et la conservation non seulement d'aliments, mais aussi d'éléments qui sont nécessaires pour les maisons. Les rideaux, les tapis, etc. Il y a des
produits naturels.
C'est pas des produits naturels.
Non, mais on peut utiliser des produits naturels pour nettoyer ces tapis.
Alors,
on peut,
en alternative, effectivement, utiliser des produits naturels. Évidemment, on sait que les pesticides, c'est très commode. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas une diminution des pesticides. Malheureusement, il y a une augmentation. Alors, au niveau de l'Île-Dieu, on peut espérer qu'il y ait une forte diminution, d'autant plus qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être appliquée le 1er janvier, qui s'appelle la loi Labbé, et qui interdit tout simplement l'usage des pesticides dans les jardins privés et dans les espaces verts.
Renan Pointeau, tu as vu un taux de mortalité augmenté pour tes abeilles ?
Non, sur l'Île-Dieu, ça reste...
Pas sur l'Île-Dieu.
Sur l'Île-Dieu, ça reste... très, très rare, en fait, finalement.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. On est assez, je pense que sur l'île, on est assez exemplaire.
Tu dialogues avec des apiculteurs du continent ?
Voilà, c'est plutôt par hasard, parce que moi, j'élève des rennes, donc je suis au contact avec tous les apiculteurs en France, voire en Europe. Et c'est là où on se rend compte des désastres que ça peut causer, surtout sur des cultures comme le colza ou des grandes cultures au centre de la France où les gens, l'apiculteur va perdre la totalité de son cheptel et du coup son salaire pour l'année. Et c'est très dommageable pour la suite du métier, quoi.
Or, on a vraiment besoin des abeilles et de tous les pollinisateurs pour nourrir les êtres humains sur Terre.
Oui, c'est la biodiversité.
On fait partie de la chaîne, c'est-à-dire l'homme, c'est un tout petit bout hein, de toute cette chaîne alimentaire au niveau mondial, au niveau de l'écosystème.
Est-ce que c'est vraiment possible de changer les choses radicalement ?
Difficile.
C'est compliqué.
Ben, on voit bien.
C'est difficile, mais c'est nécessaire.
C'est indispensable même, je dirais.
Et voilà.
Mais comme disait Émilie, on est sur le chemin. Vas-y, Émilie.
Émilie.
Oui, et... Du coup, Renan disait qu'effectivement, on est un peu exemplaire à l'île-dieu par rapport aux abeilles. Après, on peut être en chemin, par exemple, sur l'alimentation. Et du coup, aussi nos achats. Voilà, tout ça fait qu'on est en chemin sur de dire non.
Les circuits courts, le bio, ça rentre dans ce cercle.
Oui, voilà. Et après, comment aussi on s'alimente en bio avec notre portefeuille, on se nettoie sans pesticides. J'ai fait une...
Explique-nous, Émilie.
Oui, je vais vous dire. J'ai fait avec le PIF hier une formation, un petit atelier, sur comment faire son pousse-mousse sans pesticides, parce qu'on a lu les étiquettes. Et du coup, il y a de l'eau, voilà, donc il y a des rayons entiers d'eau, mais il y a aussi du pétrole, donc on se met des couches de pétrole sur notre peau. Donc voilà, l'action d'achat est importante, et donc de manger. Et pour être effectivement peut-être en chemin, mais les deux jours 26-27 sera aussi l'occasion peut-être de se mettre en marche sur comment on fait une cantine un peu plus bio à l'île-dieu. Ou d'autres choses.
Y a-t-il des pesticides dans tous les produits ?
Oui, d'une certaine façon, on peut le dire. Enfin, c'est-à-dire que malheureusement...
Christy, toi, tu dis oui.
Oui, de la culture... Enfin, j'ai pas été chercher, je suis pas scientifique, j'ai pas fait les analyses moi-même. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où, au niveau de la production, à l'origine des cultures, on utilise des pesticides, ça se termine dans l'assiette. Après, évidemment, quand il y a des cultures biologiques, Là, effectivement, c'est différent. Si on cultive au naturel, avec ou sans le label bio, si on n'utilise pas de pesticides, a priori, on est protégé en tant que producteur. Mais, et donc ensuite, en tant que consommateur. Mais ça n'empêche pas que l'air soit pollué, que, parce qu'on a toujours des épandages, même si c'est théoriquement interdit par la loi, on a des épandages de pesticides, parce qu'il y a des dérogations qui sont tout le temps renouvelées. Après, les nappes phréatiques elles-mêmes sont souvent aussi pesticidées, en quelque sorte, c'est-à-dire contenant des pesticides. Ce qui fait que même l'agriculteur bio, c'est pas sans danger, c'est-à-dire qu'il peut ne pas pouvoir faire autrement que d'avoir quelques pesticides, molécules dans ce qu'il produit.
Renan, tu es d'accord avec ce que dit Christy ?
Oui, oui, les gros producteurs, même comme Monsanto, ont même modifié les semences. Pour économiquement avoir des achats tous les ans de semis. Et on essaye de faire disparaître les vieilles graines qui poussent dans notre jardin et qui sont adaptées aux terres que nos ancêtres cultivaient. Sur l'Île-Dieu, pour revenir à l'Île-Dieu, parce que l'impact, on le voit surtout au niveau national, mais sur l'Île-Dieu, il y a beaucoup de jardins et il y en a un petit peu moins qu'à l'époque. Mais on est quand même... On bénéficie d'un territoire qui permet de chacun... Et le circuit court, de toute façon, c'est la meilleure solution pour limiter ces pesticides, ces impacts environnementaux et même faire des économies. Donc, sur l'Île-Dieu, on est en plein dedans. Hein.
On est en plein dedans, notamment...
Christy.
Merci, excusez-moi. On est en plein dedans au sens où, effectivement, on essaye avec le programme ou le projet Territoire Terre Fertile, on essaye de développer plus de la production agricole sur l'île et une production naturelle, justement, sans engrais et sans pesticides chimiques. Donc, voilà, on est en chemin. Bon, pour reprendre ton expression, Émilie, on est en chemin. On espère effectivement pouvoir avoir plus de production locale pour une consommation locale de qualité.
Émilie, comment fais-tu pour limiter les pesticides dans tes assiettes, dans ta maison ou dans ton jardin ? Vaste question, à première vue.
Oui, non mais... Dans mon jardin, effectivement, ça pousse. Je fais attention. Enfin, je dis j'en mets pas, mais je veux dire, je fais attention. Ça pousse peut-être moins ou il faut faire autrement en fait. C'est voilà ce que je veux dire.
Trouver des recettes.
Pour résumer, parce que c'est vrai que c'est, il faut faire autrement et se poser la question comment je peux faire. Bah tiens, il y a les jardins du jeudi. Je vais partager le jeudi avec d'autres personnes qui font le potager. Comment faire mes produits d'entretien. Bah tiens, il y a une formation, un petit atelier au PIF ou à l'atelier du conteneur. Bah, tiens, comment je fais et partager ça.
C'est vraiment partager des idées. Et des recettes.
Bah oui.
Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire avec
oui,
les
non.
enfants. Moi, souvent, un mercredi après-midi, les enfants, ils sont à traîner dans la cuisine. Eh ben, on va récupérer, j'ai un peu de cire à la maison, on met un peu d'huile et on fait un baume pour la peau hydratant. Ça fait participer les enfants. Et tout ça, c'est des petites choses, mais qui permettent... Parce que nous, c'est trop tard, c'est la génération qui arrive, là, qui va devoir et qui n'a pas le choix, de toute façon, limiter ces utilisations de pesticides.
Les jeunes générations sont plus à l'affût que les personnes adultes sur toutes ces questions environnementales et de pesticides. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, moi je suis d'accord parce que j'ai l'impression que la génération d'adultes, on va dire, du coup, c'est l'impression de revenir en arrière. Et c'est ça la problématique.
Peut-être,
c'est que bien évidemment... que quand je fais mon mélange bicarbonate et savon, il faut que je frotte un peu plus que le sans frotter. Donc en fait mais il faut se revenir en arrière.
Ah, c'est qu'on on était sur une période, bon, pour pas la nommer, les 30 glorieuses, le pétrole à tout va. On sait très bien que c'est fini. Maintenant c'est pas pour ça que revenir en arrière c'est gênant. Mais pour les anciens, c'est vrai qu'il y a plus de difficultés à refaire ce cheminement arrière.
Voilà.
C'est comme pour le tri des déchets, on est un petit peu pareil, ils ont beaucoup plus de mal à avoir
à comprendre
tout ce mécanisme, alors qu'un enfant, dès l'école, il a ses poubelles jaunes. Et puis nous, on a un discours qui est très, très environnementaliste, je pense, par rapport aux anciens.
Christy.
Oui, moi, je voudrais dire que ça se sent, cette préoccupation pour les jeunes générations et par les jeunes générations, enfin, ils prennent en charge aussi un certain nombre de choses, Il y a les petits à l'école, ça c'est nous et les maîtresses et les professeurs, etc., qui interviennent. Mais sinon, il y a quand même une mobilisation partout. Hein. En Europe, il y a des jeunes qui sont dans la rue. En Belgique, c'est tous les jeudis. Bon, ils sèchent l'école parce qu'ils disent, nous, l'avenir de la planète, on veut défendre notre planète. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la peine d'aller à l'école. Si on sait qu'on va être sur une planète morte, c'est pas la peine. Donc, il y a une mobilisation partout hein, dans le monde. Et en Europe, là, ça commence à venir. Bon, en France... un petit peu aussi, moins qu'en Belgique d'après ce que j'ai pu entendre. Mais de façon générale, quand on voit le succès qu'a eu le film de Cyril Dion, par exemple, qui s'appelait Demain, quand on voit là le mouvement Nous voulons des coquelicots, c'est quelque chose d'important.
C'est quoi ce mouvement, Nous voulons des coquelicots?
C'est un mouvement qui a été lancé par un certain nombre d'associations, dont Génération Future, et qui est soutenu par des gens très médiatisés aujourd'hui, comme Émilie Loiseau, qui vient de faire une très belle chanson, très très jolie, hein, sur le thème de « Nous souhaitons que nos enfants puissent se baigner dans des rivières, nous souhaitons pouvoir faire l'amour dans les champs avec des coquelicots ». Bon, voilà, c'est des choses importantes, hein. Je suis une grand-mère, mais je le dis quand même, je pense que nous, on a eu cette chance-là, et qu'il faut que les enfants l'aient aussi.
Est-ce que vous avez confiance dans l'avenir par rapport à toutes ces problématiques de pesticides?
Pas dans nous, mais dans les générations qui arrivent. Oui.
Mm-hmm. Émilie?
Moi, je dirais oui, mais...
oui, mais voilà. Ça sortait le mais, de toute façon, Émilie. Hein? Ouais.
Parce que c'est vrai que j'aimerais que les personnes, que les citoyens soient entendus. Et quand il y a des pétitions qui sont signées, des gens qui se mobilisent, à un moment donné, il faut les écouter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lobbying et voilà, sur les pesticides, les médicaments, tout ça. Mais la planète nous appartient avant tout. Nous appartient. Voilà, on est citoyens et il faudrait passer avant les industriels. Quoi.
Et ça, c'est aussi une vaste question.
Oui.
Christy.
Alors, pour abonder dans ton sens, je dirais que la planète, c'est notre bien commun. La biodiversité, c'est aussi un bien commun et il faut qu'on nous entende, en effet. Là, c'est notamment l'objectif d'une pétition nationale qui s'appelle l'Affaire du siècle et qui a été signée déjà maintenant par plus de 2 millions de personnes, ce qui est, je crois, unique pour l'instant au niveau des pétitions nationales. Et c'est une pétition qui aboutira un procès fait à l'État français pour demander qu'il se mette en cohérence avec ses promesses.
Qu'allez-vous proposer comme conférences, ateliers et visites durant cette semaine aux alternatives aux pesticides sur l'Île-Dieu? On commence au casino à la salle municipale.
Donc le mardi 26 à 20h30, on aura une conférence avec Gilles Davaux sur le thème suivant, une alimentation durable, accessible à tous. L'idée étant de mieux manger peut-être autrement, c'est certain même, mais pas forcément pour un budget plus élevé. Comment fait-on pour manger mieux avec peut-être un budget identique?
Ça, c'est le mardi 26 mars à 20h30. On en parlera plus en détail avec Gilles Davaux. Le mercredi 27 mars de 14h à 19h, que va-t-il se passer toujours au casino?
Voilà, une ouverture au casino. Sur des ateliers, en fait, des ateliers, une exposition libre à découvrir. Et à 17h, donc une présentation du livre de Fred Signoret, qui est d'ailleurs le président de la LPO Vendée. Son livre s'appelle « Paysans de nature ». Il a fait le tour pas mal de paysans et voilà, de recueillir des témoignages.
On en parlera dans un court instant avec lui. Christy.
Je voudrais juste préciser que l'exposition sera relativement importante sur les thèmes justement de la biodiversité, la vie de la terre, les auxiliaires de culture. Il y aura vraiment des panneaux bâchés très très bien faits aujourd'hui en tout cas et qu'on pourra aussi prêter aux écoles si elles le souhaitent.
Un goûter également.
Ah oui, un goûter sans pesticides.
Forcément.
Donc, que tout le monde apporte ses gâteaux, ce serait très bien.
Et oui, et puis il y a des professionnels hein, qui vont passer aussi toute la journée sur les stands.
Oui, voilà.
Comme l'année dernière.
Oui, tout à fait.
Au verger patrimonial, il y a aussi des animations le samedi 23 mars prochain de 10h30 à 13h. Une porte ouverte. Et le samedi 30 mars également. Christy, oui, Émilie ou Ronan.
Le samedi 30 mars, de 10h30 à 13h. Hein, c'est comme pour le 23, c'est 10h30, 13h. Il y aura porte ouverte au verger patrimonial, donc là où il y a tous les arbres fruitiers, mais où il y a aussi des ruches. Et puis, il y aura deux animations, une sur le plaissage, qui est une technique de maillage, de tricotage des branches de façon à réaliser des haies naturelles. Et puis, il y aura une autre animation sur le thème du sol, de la vie des arbres. Et ça, c'est Sandrine Desmarais qui va l'animer.
On retrouve toutes les informations de cette semaine pour les alternatives aux pesticides sur le site internet et le blog du collectif agricole, Christy.
Oui.
Avant de se dire au revoir, Christy, Émilie et Ronan, on accueille Frédéric Signoret qui sera sur l'île-Dieu le mercredi 27 mars à 17h au Casino afin de présenter son nouveau livre « Paysans de nature » paru aux éditions de la Chouenne IST. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Paysans de nature, c'est le nom de votre nouveau livre, mais c'est aussi un réseau que vous avez fondé. Quel est le but de ce réseau ?
Paysans de nature, c'est un projet qui rassemble, comme son nom l'indique, des paysans, mais aussi des naturalistes, des associations de protection de la nature, dont le but est de faire la démonstration qu'on peut protéger la nature par l'installation paysanne. On essaye en fait de changer un petit peu de paradigme par rapport à l'idée de dire on fait des réserves naturelles dans certains endroits, puis dans d'autres endroits on a l'activité humaine pour lequel la nature est souvent vue comme une contrainte. Ben là, au contraire, on essaye de marier une activité économique avec un vrai développement, une production, de la vente. Souvent ça passe par de la vente directe, parce que les gens qui sont en vente directe souvent sont moins contraints de produire beaucoup, parce que la valeur ajoutée se retrouve plus dans des produits de qualité.
C'est ce qu'on appelle les circuits courts.
Exactement, à travers les circuits courts. Donc la vente directe est une des modalités de circuits courts, il y en a d'autres, hein. Ça peut être au travers d'une épicerie de proximité, une biocoop, voilà, avec un ou deux intermédiaires, parfois c'est la MAP, l'association pour le maintien en agriculture paysanne. Et je sais que sur l'île-Dieu, c'est une des raisons pour lesquelles on va sur l'île-Dieu. Il y a une dynamique comme ça avec des paysans qui font du circuit court, qui prennent soin de la nature. Vous avez la chance à l'île-Dieu de n'avoir pratiquement pas, je crois, de pesticides sur l'île. Et donc l'idée, c'est de mettre en lumière toutes ces actions favorables et puis d'essayer de convaincre un maximum de gens parmi les institutions, les consommateurs, les associations de naturalistes, qu'en agissant ensemble pour installer des paysans qui portent vraiment ces valeurs-là dans leur projet, eh bien, on arrivera à restaurer la biodiversité. Voilà, c'est une des pistes.
Frédéric Signoret, vous êtes éleveur de vaches maraîchines dans le nord-ouest Vendée. Comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture en Vendée ?
Je le vois comme je vous viens de le décrire. J'espère que... En fait, le constat que je fais, là, par exemple, bon, moi je suis dans le Marais breton, hein, juste de l'autre côté de l'embarcadère de l'île-Dieu. Et on voit là une activité touristique importante avec des grands mouvements, des grandes migrations de population humaine chaque été, qui dure de plus en plus longtemps. On a aussi une agriculture qui s'est industrialisée, en fait, y compris dans nos territoires de marais, avec des fortes contraintes climatiques et tout. Et je pense que si on revient sur une agriculture artisanale qui se rapproche de tous ces citoyens, de tous ces touristes qui viennent profiter de la région et qu'on leur explique le lien qu'il y a entre avec la qualité du paysage et puis ce qu'ils mangent, eh bien, on arrivera à avoir de plus en plus de consommateurs qui se tourneront vers ce type de production. Et à partir de là, voilà, je pense qu'il y a un vrai potentiel de croissance de cette agriculture qui prend soin de la nature.
Le tourisme aime bien aller au-devant des producteurs pour découvrir leurs produits et découvrir également les circuits qui bourrent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis complètement d'accord avec ça. Nous, c'est ce que nous pratiquons sur la ferme là, sur laquelle nous sommes. L'accueil des populations locales et des gens qui sont en visite dans notre région fait partie intégrante de l'activité de notre activité professionnelle. Nous, on vend, donc là sur la ferme, on a 50 vaches qui font chacune un veau par an, et on vend toute cette production en vente directe. Donc ça fait entre 30 et 40 animaux à vendre chaque année, donc c'est pas rien. Et on vend tout en direct. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ça intéresse beaucoup les gens. Et c'est aussi un plaisir pour nous d'accueillir, d'expliquer ce qu'on fait. Il me semble que c'est également quelque chose de positif pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est pas mal décriée, notamment à cause des produits chimiques, à cause de l'alimentation et de la santé qui se dégrade. C'est aussi une manière de redonner des lettres de noblesse à l'agriculture, de faire en sorte que les agriculteurs puissent parler directement avec leurs consommateurs.
L'agriculture, on a déjà l'impression que ça se dirige vraiment vers les circuits courts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense qu'il y a un vrai élan là-dessus. Bon, après, il faut rester réaliste. Hein. Ça représente encore qu'une partie minoritaire, évidemment.
J'ai l'impression que les agriculteurs se disent « Pourquoi pas moi ?» Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je suis certain que c'est en train de progresser dans la tête de tous les agriculteurs. C'est une évidence parce que d'abord, ils sont tous un peu prisonniers de ce système où ils sont finalement les utilisateurs de produits industriels qu'on leur impose plus ou moins. Mmh. Et puis, ils sont aussi les fournisseurs d'une matière de base qui ensuite est transformée par des gens qui gardent la valeur ajoutée. Et en fait, je vois bien qu'ils sont coincés dans ce système-là. Voilà. Alors, c'est pas satisfaisant. Ce serait mieux que les agriculteurs, producteurs soient mieux traités dans cette filière, mais c'est pas le cas. Et du coup, c'est effectivement une porte de sortie possible aujourd'hui et qui, moi, me paraît salutaire parce que non seulement on a cette reconnaissance vis-à-vis des consommateurs, mais aussi on a une vraie... On retrouve notre capacité à avoir notre mot à dire dans la manière dont le prix est calculé, dans la dont on parle du produit, et là, c'est une vraie reconnaissance.
Votre livre présente 28 fermes dans quelle région, pour en revenir à votre livre, qui s'appelle Paysans de nature, on rappelle.
Alors, Paysans de nature, on a écrit ce bouquin donc parce que le projet dont je vous parle, on l'a déjà présenté à plusieurs reprises avec Perrine Dulac, qui est le co-auteur du livre avec moi. Et à chaque fois, on nous dit « Oui, mais vous, dans le Marais breton, c'est différent, vous êtes en Natura 2000, il y a des MAE, il y a du tourisme, donc c'est facile. » Et on avait cette conviction que c'est pas plus facile dans le Marais breton qu'ailleurs, mais que, par contre, il faut avoir ce schéma de pensée et puis cette force de travailler à plusieurs. C'est-à-dire, on demande aux naturalistes de sortir de leur habitude d'expertise naturaliste et de se rapprocher des consommateurs et des paysans, etc. Et du coup, on a fait le choix dans le livre Paysans de nature de faire des portraits à travers la France parce que ces systèmes-là, ils existent partout en France. Alors, il y en a plus dans les pays de la Loire et Bretagne-Poitou-Charentes parce que, bon, bah, c'est notre proximité, c'est là qu'on connaît le plus de gens. Mm-hmm. Mais on en a trouvé en Alsace, dans le sud de la France, pas mal en Rhône-Alpes. Et depuis qu'on a écrit ce bouquin qui est sorti à l'automne dernier, on se dit qu'on verrait bien des éditions régionales à terme, parce qu'en fait, ça fourmille d'initiatives un peu partout dans les territoires et ça donne envie de raconter les histoires de chacun.
Vous racontez les histoires de chacun avec des textes et des photos dans ce livre.
Exactement, c'est très illustré, on y retrouve à la fois des portraits de paysans, des histoires de vie, et puis bah, y a des photos de nature, beaucoup de photos de nature que des copains naturalistes, qui sont souvent des bons photographes, nous ont données, et puis des photos d'élevage essentiellement, quoi, d'animaux domestiques. Et en particulier sur les animaux domestiques, il y a beaucoup de races locales. Et là, on parle de biodiversité domestique, en plus de la biodiversité sauvage. C'est toutes ces races et ces variétés anciennes qui ont été abandonnées par l'agriculture industrielle. Et souvent, il y a un lien fort entre la biodiversité domestique et la biodiversité sauvage.
28 fermes à découvrir, on l'a dit à l'instant. Ces fermiers, ces agriculteurs vivent bien de leur travail ?
Alors, il y a tout un paragraphe sur ce sujet dans le bouquin. Oui, ils vivent bien, pour certains.
On entend souvent que les agriculteurs ne vivent pas bien de leur travail.
Il y a plusieurs choses. On précise quand même que c'est pas parce qu'on va se mettre en circuit court et qu'on va se mettre à protéger la nature qu'on est sûr de bien gagner sa vie. En fait, pour bien gagner sa vie en agriculture, comme dans beaucoup de métiers, il faut avant tout être un bon gestionnaire, c'est-à-dire savoir gérer une entreprise et avoir plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Ça, c'est la base de toute activité professionnelle à son compte.
C'est une logique imparable.
Et en fait, il y a des gens qui s'en sortent bien en agriculture industrielle dans cet exercice. Et il y en a qui s'en sortent très bien aussi en étant des paysans de nature. Mais on a aussi des gens qui sont en difficulté économique tout en faisant ces choix de paysans de nature. La différence, c'est que quand on fait ces choix-là, souvent on est sur des investissements faibles avec des petites structures qui font appel à moins d'intrants, moins de mécanisation, moins d'énergie. Et du coup, si jamais ça doit s'arrêter, le drame économique et social est moins violent que lorsqu'on a des gens qui sont inscrits dans un schéma industriel où au final ce sont les agriculteurs qui assument les risques. C'est-à-dire que on leur impose beaucoup de choses, par contre c'est eux qui prennent les risques financiers, quoi. Donc du coup ça met les gens dans des situations sociales très difficiles. Et je dirais que paysan de nature, si c'est pas une garantie de réussite économique, au moins c'est la garantie que la chute sera moins forte. Et en plus on a le soutien de tout un réseau de consommateurs, d'amis, qui est plus forte, je pense, dans ces dynamiques-là avec les circuits courts.
Ça sera le mot de la fin. Frédéric, on vous retrouve sur l'île Dieu le mercredi 27 mars à 17h au Casino pour présenter, on l'a compris, ce livre Paysans de nature. Merci beaucoup de toutes ces informations.
Merci beaucoup de votre accueil.
Merci Christy Cohen. On rappelle, tu es secrétaire du collectif agricole. À très bientôt.
À bientôt.
Émilie Coulombe, merci beaucoup.
Merci.
Renan Pointeau, merci beaucoup.
Oui, merci.
On rappelle, tu es apiculteur sur l'île Dieu. À très bientôt.